Bon, je me présente en deux mots. Je suis Daniel Lecoedic, je suis professeur à l'Université de Bretagne Occidentale, à l'Institut de Géo-Architecture, dont je dirige le laboratoire de recherche. Je suis architecte et historien et je m'intéresse notamment à Brest. Bien évidemment, Brest considéré comme un laboratoire de l'urbanisme, ce qui n'est pas toujours présent à l'idée des Brestois, qui quelquefois dénigrent bien à tort leur ville. Mais cette ville qui fut une ville nouvelle, qui a été une ville reconstruite, est une ville effectivement qui a servi de banc d'essai bien souvent à des théories ou à des idées qui en d'autres circonstances n'auraient pas pu advenir. Un architecte fameux qui s'appelait Marcel Lotz parlait de la monstrueuse occasion de la guerre, et c'est vrai que les destructions ont permis, à l'occasion de relèvement des villes, de mettre en œuvre un certain nombre de théories qui dormaient dans les livres précédemment. Bon, je ne vous accablerai pas tout au long du parcours, je prendrai la parole à quelques moments clés où on peut voir et comprendre des choses qui me paraissent assez originales et assez caractéristiques de ce qui a pu être fait à Brest. Et donc, nous commencerons le commentaire à Caliversan. Je ne suis pas sûr que vous verrez le sommet des tours, car tout à l'heure, effectivement, elles étaient perdues dans le brouillard, mais vous savez, en d'autres circonstances, on dit que la pluie s'arrête quand les processions, les jours de pardon quittent les églises. Prions pour que dans le domaine laïque qui est le nôtre aujourd'hui, il en aille de même. Donc, pouvoir dire quelques mots de Caliversan. Alors, le nom exact de l'opération était le chantier d'expérience de Caliversan. Pourquoi chantier d'expérience? Parce que... Attendez, je laisse passer le message.
Du puits de l'eau.
Chantier d'expérience, disais-je, parce que au milieu de la reconstruction se posait déjà un autre problème qui était celui de la résorption de la crise du logement en France. Et il y a eu la volonté de mettre au point un certain nombre de méthodes de préfabrication et de construction en série qui auraient été de nature à construire très rapidement les logements qui manquaient partout en France et notamment à Brest. Donc, Brest a été le seul chantier en Bretagne, ou plutôt il faudrait ajouter les Dervalières à Nantes, donc deux chantiers bretons qualifiés de chantiers d'expérience, mais je crois que le son à nouveau vient de disparaître.
Non, effectivement, dès l'instant où il s'éloigne.
Bon, la technique que nous trahit, ben oui, mais là je crois que ça ne passe pas.
Si,
ça passe. Bon, bien. Donc, ce chantier a été extrêmement ambitieux et il a été imposé, il n'y a pas d'autre mot, par le nouveau ministre qui arrive en 48 au ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui était Eugène Claudius Petit, qui considérait que la reconstruction avait été très mal conduite, qu'on s'était contenté, la formule est de lui, de blanchir les sépulcres, et qui a voulu, in extremis, introduire des éléments de modernité dans ses reconstructions. Donc, le chantier de Caliversan a été un de ceux-là. Et il a été beaucoup plus ambitieux en réalité que ce qui a été réalisé, puisqu'il n'y a eu que 4 tours de construit par Lopez et Gravraud, qui étaient les architectes de l'hôpital Morvan, qui avaient gagné le concours avant-guerre. En réalité, il devait y avoir 6 tours de ce côté-ci et 6 autres de l'autre côté de la Pinfeld. Mais l'office municipal des HLM de Brest était très opposé à l'idée de construire des tours qui lui paraissaient absolument contraires à la dignité et qui était en plus très inquiète, cet office, des conditions techniques de réalisation qui lui paraissaient expérimentales et donc de nature à poser des problèmes ultérieurs. Et donc l'office a fait en sorte de ne pas acheter les terrains de l'autre côté de la Pinfeld, donc l'opération n'a pas été commencée et a réussi à interrompre le chantier de ce côté-ci à la fin du chantier de la 4e tour. Ces tours ont été recarrossées il y a une vingtaine d'années parce qu'effectivement elles ont posé quelques problèmes d'étanchéité, mais elles figurent dans la plupart des ouvrages d'histoire de l'architecture. Ce fut un jalon extrêmement important dans l'histoire de la construction et de la préfabrication en série qu'elle laisse développer dans les années qui suivent. Alors à cette époque-là, Maton était encore architecte en chef de la reconstruction. Il ne sera pas remercié, mais pour employer une expression qui est commune aujourd'hui, il fut mis dans un placard. Le nouveau ministre, qui était un ami personnel de Le Corbusier, trouvait que les reconstructions telles qu'elles avaient été conduites étaient donc navrantes, et il a soutenu non seulement cette opération-ci, mais il restait un autre chantier à conduire à Brest, qui était le bas de la rue de Siam et le front du château, où là aussi on est passé à une modernité mesurée, mais une modernité néanmoins, où il devait y avoir des îlots jusqu'à la Pinfeld, on les a remplacés par une barre, qui, elle, a été réalisée par Eugène Baudouin. Bien, donc, après Caliversan, le tram longe donc le plateau des Capucins, hein, qui fut occupé par, effectivement, des Capucins dès la fin du XVIIe siècle, et les bâtiments furent réalisés au cours du XVIIIe pour la plupart. À la Révolution, le couvent a été transformé en caserne et augmenté de bâtiments nouveaux. Et donc aujourd'hui, où la marine l'a quitté, ce sera la grande opération de Brest des années à venir. Bon, nous allons emprunter le tracé des fortifications. Alors je suis très ennuyé pour vous parler parce qu'il y a dans cette rame quelqu'un qui est le vrai spécialiste des fortifications, qui est Alain Boulaire, que j'ai aperçu tout à l'heure. Donc je me contenterai de vous dire qu'effectivement nous sommes sur un boulevard au vrai sens du mot, puisque étymologiquement, et enfin à l'origine en tout cas, le boulevard était la promenade sur les fortifications, et lorsqu'on a arasé les fortifications, eh bien on a considéré qu'il était normal de donner le titre de boulevard aux voies de circulation que l'on installait en lieu et place de ces anciennes fortifications. Bien, alors les fortifications, à la fin de la guerre, elles étaient intactes pratiquement. Les archives américaines nous apprennent que les troupes de Patton avaient envisagé de percer en deux endroits les fortifications et d'investir rapidement la ville. Ils ne sont pas parvenus à leur fin, comme quoi Vauban pouvait encore avoir son actualité au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a provoqué les bombardements au napalm, hein, qu'on n'appelait pas encore le napalm, mais c'était ça de Brest qui a provoqué l'incendie final. Mais les fortifications, elles, étaient pratiquement en état et on s'est empressé de les démolir. Il y a eu une course de vitesse entre deux ministères, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, partisan de la destruction, et l'administration en charge des monuments historiques. Il n'y avait en effet pas de protection sur les fortifications parce que le ministère des Armées, devenu de la Défense nationale, s'était toujours opposé à ce que l'on protège les fortifications, y voyant un rôle militaire. Et donc le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme l'a emporté, dans des conditions mal établies, il n'y a pas de documents en archive qui feraient état de délibérations et de décisions prises. Manifestement, les choses se sont faites téléphoniquement et Maurice Picmal, l'ingénieur en chef qui a conduit ces négociations, dans le grand âge, à plus de 80 ans, lorsque j'ai fait quelques entretiens avec lui, se considérait toujours tenu par l'obligation de réserve et n'a jamais voulu dire comment les choses s'étaient passées. Bien, nous passons devant le Macorlan, qui est un bâtiment qui vient d'être réhabilité et transformé. C'est un des beaux édifices de la reconstruction, qui a été fait par un architecte parisien qui s'appelait Michel Ouchakoff, qui a fait aussi le Comédia, qui attend désespérément une destinée. Alors, nous arrivons sur une place qui est assez difficile à comprendre, dans la mesure où effectivement elle est deux niveaux au-dessus de ce qu'était de son niveau avant-guerre. Et il y a quelques années encore, lorsqu'on pénétrait dans les immeubles qui sont à ma droite, donc à gauche lorsqu'on est dans le sens de la marche, eh bien on trouve un escalier et on pouvait penser qu'il descendait à la cave. Pas du tout, il descendait au rez-de-chaussée, car le comblement sur dalle avait été fait à hauteur du deuxième étage, et on pouvait encore voir les volets qui claquaient sur la porte qui était devant la porte qui était en sous-sol, et on voyait la plaque de la rue qui y était encore. Alors, le vrai recouvrance historique était à droite, hein, bien évidemment. Il a été totalement détruit. Il faut dire qu'il était terriblement taudifié de surcroît. Et cette partie-là est une partie un peu mystérieuse de la reconstruction, puisque la grande zone herbue qui va jusqu'à la tour Tanguy est très souvent aujourd'hui difficile à comprendre et même à expliquer. Alors nous empruntons un pont dont tout le monde sait qu'il est levant. On a pu redécouvrir à l'occasion du travail qui a été fait pour son amélioration pour recevoir le tramway qu'il était aussi descendant. C'était effectivement une exigence de la marine qui très longtemps s'était opposée à la construction d'un pont sur la Pinfeldt, puisqu'il faudra attendre le premier tiers du 19e siècle pour que l'idée en soit admise, et 1861 pour que le pont tournant, soit réalisé. Mais ce pont tournant, il a quand même obstrué la Pinfeldt pendant la guerre, après sa destruction, et en conséquence, la marine était réticente à laisser reconstruire un pont. Et l'idée qui a été admise était celle d'un pont dont on put enlever le tablier. Et effectivement, en descendant le tablier, on peut l'évacuer par barge à tout instant. Bien, là, nous parlions de la reconstruction. La rue de Siam en est effectivement l'axe majeur. Alors quel a été le point de vue de Maton ? Maton a considéré que la ville ancienne était une sorte d'esquisse, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire ce que Vauban n'avait pas pu faire. Vauban, s'il avait bénéficié hein, de ce que Descartes se présentait comme étant l'idéal pour un urbaniste, c'est-à-dire la plaine, à la fameuse phrase de Vauban, la ville idéale est celle que l'ingénieur trace à sa guise sur la plaine. Hein. Eh bien, Vauban n'avait pas pu mettre en place le carroyage qu'il aurait mis en place, incontestablement, il l'a fait ailleurs, sur la plaine, parce qu'il y avait des vallons extrêmement profonds qui entaillaient le site. Bon, au moment de la reconstruction, on va donc utiliser les matériaux des fortifications et des immeubles ruinés pour combler ces vallons et obtenir, remanier considérablement le site, faire de la Pinfeld un canyon d'ailleurs, et simultanément on va pouvoir mettre en place ce carroyage. Mais c'est un carroyage très habile car il va permettre de restituer des terrains à peu près identiques et à peu près au même endroit, sinon projection orthogonale bien sûr, puisqu'il y aura des différences de cote allant jusqu'à 30 mètres, aux anciens propriétaires, qui vont, eux, reconstruire avec les moyens qui leur sont octroyés en fonction de ce qu'était la valeur de leur patrimoine avant-guerre. Ce qui crée donc une disparité dans les immeubles, des immeubles plus ou moins larges, plus ou moins hauts, en fonction des capacités à reconstruire des propriétaires. Et pour éviter la cacophonie qui aurait nui à ce grand parti qu'il se proposait de mettre en place, eh bien, Maton a disposé des immeubles ordonnancés aux endroits clés de la ville. Alors, quels étaient les endroits clés? Bien sûr, la proximité de la place de la Liberté et la place elle-même.
Prochaine station.
Mais aussi le croisement des deux axes qui organisent la ville, parce que si on lit très bien la rue de Siam, on oublie quelquefois l'axe secondaire qui existe toujours dans les compositions classiques, qui allait de la trésorerie jusqu'au tribunal en passant par la Banque de France. Hein. Et la construction du bâtiment qui abrite aujourd'hui Dialogue empêche de lire effectivement ce second axe qui était très visible il y a encore quelques années. Alors, cet axe principal est très monumentalisé et vous remarquez que la rue de Siam s'évase à deux reprises pour accroître la perspective vers l'hôtel de ville. L'hôtel de ville qui est une pièce très nouvelle car la marine s'était toujours opposée à la réalisation d'une mairie digne de ce nom à Brest. La mairie était logée dans un vieil hôtel qui était dans un très piteux état et tous les projets, il y en avait eu plusieurs, qui avaient été imaginés, n'avaient pas pu se réaliser. Donc on profite de la reconstruction pour doter Brest des deux éléments qui lui manquaient, un hôtel de ville majestueux et aussi une vraie fausse cathédrale car Brest, ville nouvelle, n'avait pas de saint fondateur, pas de cathédrale et l'église Saint-Louis sera la plus grande église de la reconstruction en France et a vraiment les dimensions d'une cathédrale. Donc on monumentalise cette ville qui manquait cruellement de monuments. Hein. Alors, la place de la Liberté, c'est aussi une idée qui est reprise. Et voyez que Maton n'a pas réinventé Brest, il a actualisé des idées qui étaient dans les têtes ou dans les cartons. Il va reprendre une idée qui figurait dans le plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension qui avait été dessiné en 1920 par Millineau, l'architecte de la ville, le premier plan d'urbanisme moderne de Brest. Millineau considérait que la Pinfeld était perdue à jamais, que la marine ne la restituerait pas. Et en conséquence, il proposait de doter Brest d'un nouveau centre qu'il plaçait Place de la Liberté, elle s'appelait déjà comme cela, qui était un endroit non construit parce que vous savez que les fortifications étaient entourées d'une zone non edificandi, parce qu'il fallait voir venir l'éventuel assaillant. Il y avait donc des terrains disponibles et il avait dès 1920 proposé donc de faire de là une place, mais une véritable place, c'est-à-dire une place qui aurait été fermée et qui aurait donc articulé la ville autrefois intramuros, car elle se plaçait dans l'idée de la destruction de fortifications, et les anciens faubourgs. Maton ne va pas faire ça exactement, il va emporter par sa culture classique, il va faire de la place de la Liberté Versailles. Si vous regardez le plan de Brest et le plan de Versailles, eh bien l'analogie est frappante, hein, un plan qui se développe en éventail et le château regarde la ville, c'est-à-dire qu'il a consacré la partie reconstruite comme étant la partie digne de la ville, alors que l'idée était d'en faire un quartier comme les autres. Alors la rue Jean Jaurès, elle va connaître une nouvelle destinée dans la période de reconstruction parce qu'elle a été peu mutilée. Et elle va donc concentrer une activité, notamment commerçante, qu'elle n'avait pas avant-guerre. Hein. Bon, mais cette rue est une rue tout à fait intéressante aussi au plan de l'architecture. Elle a été essentiellement construite à la fin du 19e et au début du 20e. Et on y voit quelques immeubles très caractéristiques, à la fois de l'éclectisme, qui est le style qui a marqué la fin du 19e siècle, et même de temps en temps avec des éléments d'art nouveau, qui est ce style éphémère hein, qui va durer de 1890 à 1914. Mais lorsque l'on se promène sur la rue Jean Jaurès en levant le nez, tout en restant prudent, eh bien on découvre des immeubles qui sont de belles factures et de belles qualités, réalisés le plus souvent par des architectes brestois, il y avait une phalange d'architectes à Brest, notamment les Philippe, l'oncle et le neveu, qui l'un après l'autre vont réaliser ces immeubles Art Nouveau, et pour le plus jeune des deux, des immeubles Art Déco, qui eux sont caractéristiques de la période d'entre-deux-guerres. Alors sur la gauche, on a le quartier de Saint-Martin, hein, qui est une opération d'urbanisme très volontaire. Brest s'était rempli, bourré, disait la presse locale. Il fallait donc construire hors les murs, et une grande opération d'urbanisme donc avait été conduite dans le dernier tiers du 19e siècle, sur des terrains annexés des communes voisines, puisque Brest avait une population qui était à peu près équivalente hors les murs et dans les murs, et avait obtenu donc d'annexer les territoires des communes voisines, de Lambézélec et de Saint-Marc, qui étaient attenants aux fortifications, enfin de Lambézélec essentiellement. Et cette opération d'urbanisme, eh bien, vous savez que toute opération d'urbanisme passe par une valorisation des terrains, et la valorisation, très classiquement, au XIXe siècle, c'était construire une église et des halles. Et comme c'est aussi le début de la photographie, on a des photos de ce début de chantier où on voit l'église Saint-Martin et les halles au milieu d'un champ de choux, car effectivement l'agriculture venait bien sûr jusqu'ici. Et donc ces éléments permettaient de donner une charge foncière au terrain et de lancer des opérations immobilières. Et le quartier Saint-Martin s'est construit assez vite, avec une architecture très austère, de ce néoclassicisme quasiment dépourvu de mode et nature. Mais il y a une caractéristique quand même, c'est que dans un premier temps, un certain nombre d'investisseurs, voyant que ça se passait bien au plan économique, ont regretté que leurs immeubles ne soient pas un peu plus hauts, et ont rajouté un étage sommital, généralement avec une charpente légère, en bois, et très souvent avec un balcon filant. Et c'est devenu une sorte de signature de Saint-Martin, à telle enseigne que dans un second temps, on a construit des immeubles sous cette forme-là, alors qu'au début, c'était une surélévation et donc un second chantier. Mais il y a des immeubles qui ont été d'emblée construits selon ces modalités.
Mais je vous tourne le dos, je suis navré.
Saint-Martin.
Alors l'église Saint-Martin, elle a été dessinée, parce que ce n'est pas lui qui mènera le chantier jusqu'à son terme, par Boucher de Perthes, qui était un jeune architecte de talent, qui avait été nommé architecte de la ville de Brest. Et il va être remercié au milieu du chantier de l'église Saint-Martin, tout simplement parce qu'il avait eu le front d'accepter aussi le chantier de la reconstruction de l'hôtel de ville de Paris, qui avait été incendié pendant la Commune. Et le maire de Brest a trouvé que c'était une infidélité insupportable, et il l'a remercié. Alors nous allons nous diriger vers la place de Strasbourg, et je vais vous donner quelques indications sur la façon dont on a urbanisé ce quartier. Quand on reconstruisait une ville au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on essayait, parce que les propriétaires avaient un poids politique considérable dans la société, on essayait d'abord de satisfaire les propriétaires. Mais généralement, les reconstructions passaient par ce qu'on des pertes de densité notoires, des congestions, disait Maton, parce qu'effectivement, il y avait des parties taudifiées, il y avait des gens qui habitaient des combles, il y avait des familles nombreuses qui étaient dans de très petits logements. Il n'était évidemment pas question de reloger dans les mêmes conditions, effectivement, dans la ville nouvelle. En conséquence, se posait le problème du logement de ces gens qui étaient des locataires, qui n'avaient pas de droit à des indemnités pour la reconstruction, et qu'on ne pouvait évidemment pas laisser dans ce qu'on n'appelait pas encore des bidonvilles, mais qui aurait pu être cela. Et donc, on a inventé ce qu'on appelait les ISAI, les immeubles sans affectation individuelle, c'est-à-dire des logements qui sont devenus dans un second temps des logements HLM pour simplifier la procédure, mais c'était des logements dérogatoires, financés par l'État au titre des reconstructions. Et on en a profité généralement pour les construire hors la ville parce que les terrains étaient moins chers, mais aussi pour tester un certain nombre d'idées du mouvement moderne qui condamnait vigoureusement la ville dans ses formes traditionnelles, les rues, les places, et qui préconisait l'installation de grands édifices au milieu d'un parc avec une nature circulant entre les édifices. Et donc la place de Strasbourg va accueillir un certain nombre de ces ISAI, et c'est là qu'on va tester en fin de compte la formule qui sera mise en œuvre quelques années plus tard, massivement, dans les grands ensembles. Alors pour l'anecdote, quand même, il y a un compte-rendu qui est d'une réunion à la préfecture qui est tout à fait intéressant parce que quelqu'un dit brusquement « mais il faudrait peut-être mettre quelques places de stationnement au pied de ces immeubles ». Et un autre ingénieur du ministère de la Construction et de l'Urbanisme dit « mais pourquoi les ouvriers n'auront jamais de voiture ?» Et quelques mois, véritablement plus tard, c'était une évidence avec la 2 chevaux et la 4 chevaux que la voiture allait se démocratiser.
Place de Strasbourg. Place de Strasbourg.
Juste un mot, sans entrer dans des descriptions, parce que c'est un autre thème, mais pour attirer votre attention sur le fait, c'est bien visible ici, qu'il y a eu une politique d'accompagnement de la mise en place du tramway qui a consisté à confier des artistes à intervenir aux endroits clés, dont la place de Strasbourg. Donc c'est ça, c'est quelque chose qui s'est fait dans la plupart des villes françaises qui se sont dotées d'un tramway ces dernières années, et c'est l'occasion de développer une politique d'art public qui est quelquefois un peu atone, et le chantier est l'occasion de réveiller cet intérêt, cette attention. Un chagrin quand même, il y a le tramway, elle contraint son parcours compliqué, contraint à déplacer une des œuvres d'art majeures qu'il y avait à Brest, qui était les Stabiles de Marcel van Tinen, qui est sur la place de la Porte à Recouvrance. Je comprends fort bien qu'on était contraint de les déplacer, je regrette en revanche amèrement l'endroit où on l'a mise, cette œuvre, car elle était véritablement conçue pour le lieu, et le programme très précis avait conduit à cette expression artistique. Aujourd'hui, elle plante ses pieds dans une pelouse mal entretenue, et je crois que là, c'est un chagrin que l'on peut avoir.
Ménès Paul. Ménès Paul.
Excusez-moi, je vais juste vérifier.
Bien, nous passons à proximité d'un supermarché. Aujourd'hui, cela fait partie des paysages, des portes de ville que l'on connaît, que très souvent on critique et que l'on condamne. Mais alors Brest, là aussi, a été pionnier. Beaucoup parmi vous doivent se souvenir que c'était un magasin Rallye. Et effectivement, un certain nombre de formules de la grande distribution ont germé dans le Léon, très, très curieusement, à moins que ce ne soit un recyclage, je dirais, des vertus qu'on prêtait aux gélodotes de marchands de chevaux naguère dans nos campagnes. Mais donc, la famille Cam a inventé un mode de distribution, la galerie marchande en serrant la grande surface. On pourrait bien sûr parler aussi de Leclerc, qui a inauguré hier sa fondation, de Rodif, de la Brioche Dorée. Et effectivement, Brest a été une sorte de creuset du commerce moderne, quel que soit encore une fois le point de vue qu'on peut développer à son égard. Bon, donc nous allons nous diriger vers Pont-à-Nézène. Alors, Pont-à-Nézène est un endroit effectivement tout à fait particulier à Brest, mais absolument pas pour les raisons qui sont souvent avancées. Pont-à-Nézène a connu son heure de gloire pendant la guerre de 14 en accueillant jusqu'à 50 000 soldats américains, une véritable ville américaine à Brest. Pourquoi ces soldats? Eh bien parce que Brest a été le port d'escale de tous les grands paquebots transformés en transport de troupes pendant la Grande Guerre. Non seulement les grands paquebots français, anglais, américains, mais aussi allemands qui avaient été capturés en guerre. Et donc les 20 plus grands paquebots du monde ont mouillé en rade de Brest pendant la guerre. Ce qui a conforté une idée qui était déjà présente dans certaines têtes que Brest pourrait être le grand port transatlantique européen. Mais la concession était octroyée par l'État et c'est le Havre qui l'obtiendra et non pas Brest. Mais donc cette présence américaine se traduit dans la ville mais dans le centre-ville puisqu'en remerciement les Américains ont offert ce monument qui jouit de l'extraterritorialité. Vous pouvez donc aller aux États-Unis pour pas cher sur le cours d'Ajo qui est aux États-Unis. et qui a été détruit bien sûr pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruit à l'identique ensuite. Bon, il y a eu ici un grand ensemble de construits pour loger les derniers habitants des baraques, des cités de baraques de la reconstruction. C'était ici prévu pour 7000 habitants. 7000, c'est la population de Saint-Renan, à peu près, hein, si vous voulez. Et ça a été construit en 1970. Et ce quartier, je tiens à le dire, n'a jamais connu les dérives dont on l'a accusé. Il y a eu des difficultés, comme dans tous les grands ensembles, mais ça n'a jamais été le quartier que l'on a dénoncé, que l'on a vilipendé et que l'on a discrédité très injustement. Mais il y a actuellement une opération, une ORU, une opération de rénovation urbaine importante qui lui redonne, je pense, toute la dignité et la réputation morale auquel il a le droit. Ben écoutez, on va arrêter le commentaire ici. Je vous remercie de votre patience et puis bon voyage en tramway.
Merci beaucoup.